J'ai relevé au fond la prudence de Sioux de vos prédécesseurs que vous mentionnez, prudence que vous semblez devoir être de mise encore aujourd'hui, vu la difficulté de la problématique, de cette problématique au fond, dans le cadre d'une école laïque et multiculturelle. Avant de passer la parole à M. Waldo Hulmacher, je me permets juste de saluer la présence dans cette salle, que vous sachiez, de représentants d'abord de fédérations d'associations de parents, qui prendront sûrement la parole après, de représentants des fédérations d'enseignants secondaires et primaires peut-être, de représentants de différentes communautés religieuses, la communauté musulmane, israélite de Genève, catholique romaine, catholique chrétienne, l'église protestante, aussi pour tous ceux qui se sont en tout cas annoncés, il y en a peut-être d'autres qui prendront la parole ensuite. Donc vous aurez dans quelques minutes la possibilité d'interpeller nos orateurs. La parole est maintenant à M. Waldo Hulmacher, donc président du groupe de travail exploratoire qui avait produit ce livre-là, rapport du groupe de travail exploratoire sur la culture judéo-chrétienne à l'école, qui avait reçu mandat du département de l'instruction publique. Et je vous cite, M. Hulmacher, « Ce rapport n'apporte pas des solutions clés en main, mais suggère des pistes de réflexion. » La parole est à vous.
Merci, Madame, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Genève, vous le savez, a été, pendant 3 siècles, un des bastions du protestantisme européen, qui a beaucoup marqué son identité, son évolution sociale, économique et politique. Au congrès de Vienne, 1815, Genève est devenue un canton suisse, les Genevois le souhaitaient, mais un canton biconfessionnel pour des raisons géopolitiques qu'il fallait rattacher cette unité territorialement à Genève. Un territoire, cependant, assez restreint, non pas que les Genevois n'auraient pas eu des appétits, ni même que les puissances réunies à Vienne n'auraient pas concédé davantage de territoire, mais que les protestants genevois ne souhaitaient pas se trouver à la tête d'un canton majoritairement catholique. La biconfessionnalité marquera tout le XIXe siècle et le début du XXe. En effet, lorsque les radicaux prennent le pouvoir en 1846, ils ont opté sans hésiter pour la laïcité de l'État et de son école, l'un et l'autre ne pouvant être ni catholiques ni protestants. Les radicaux défendaient cependant clairement le principe d'une école publique. Et après avoir inscrit la liberté des cultes et celle de l'enseignement dans la Constitution, ils y ont aussi ajouté ce texte, cet article, afin de permettre à tout élève d'être admis dans les établissements d'instruction publique. L'enseignement religieux est distinct des autres parties de l'instruction. L'option pour la laïcité s'imposait moins sous une poussée anticléricale, comme ce sera le cas 35 ans plus tard en France ou en Belgique, que comme une sage mesure de pacification sociale et scolaire, s'agissant d'un territoire qui comptait déjà à peu près autant de protestants que de catholiques. Plus qu'ailleurs, l'esprit de la laïcité genevoise est d'abstention et de neutralité. Durant la deuxième partie du XIXe siècle, tandis que le principe de laïcité de l'État et de son école entrait progressivement dans les mentalités, les questions concernant la religion, ou plutôt concernant les églises, revinrent cependant souvent dans l'arène politique et finalement, en 1907, à une courte majorité, le peuple genevois a décidé la séparation de l'État et des Églises. M. Baird a déjà rappelé le texte de la loi sur l'instruction publique qui dit que l'enseignement doit garantir le respect des convictions politiques et religieuses et confessionnelles, des élèves et des parents. La référence aux convictions politiques ne date cependant pas des années, que des années 70. Elle ne figurait pas à l'origine. Et on peut se demander dans quelle mesure une interprétation restrictive de cet article n'a pas conduit à une certaine frilosité sur toutes les questions qui concernent les opinions, l'incertain, l'indéterminé, là où il faut prendre position plutôt que de se référer à des autorités scientifiques et des assurances scientifiques établies. Durant plus de 150 ans, donc, la religion n'était plus un thème au département de l'instruction publique. Et voilà que, en 1994, le département crée pour la première fois un groupe sur la culture judéo-chrétienne à l'école, un groupe prudemment appelé exploratoire d'ailleurs, avec 3 représentants des églises de la tradition genevoise et 5 enseignants à titre plus ou moins personnel et un président sociologue. Je voudrais remercier ici d'abord les membres du groupe de travail pour l'excellent esprit de coopération et de débat laïque qui a régné dans ce groupe. Et naturellement, je donnerai un éclairage de ce que je sais faire de sociologue, plus que de théologien. Les membres du groupe sont pour la plupart présents. Ils prendront la parole pour corriger leur président. Les raisons de cette décision, M. Baird les a déjà rappelées. L'inculture religieuse, l'analphabétisme religieux stigmatisé par les milieux ecclésiaux, mais aussi certains milieux d'enseignants d'histoire. Il est vrai que l'émergence des mouvances sectaires et les événements tragiques, les 2 massacres de l'ordre du Temple solaire, ont certainement joué un rôle déclencheur, ici comme d'ailleurs au département de justice et police, où l'on a aussi une réflexion sur la problématique des mouvances sectaires. J'ajouterai, comme M. Baird, la problématique de la multireligiosité. Actuellement, l'islam est la 2e religion dans l'école primaire déjà, sous l'effet de l'immigration. Et au total, environ 1 élève sur 10, 2 par classe en moyenne, sont inscrits à l'école comme croyants non chrétiens. Ça change la donne pour la problématique de l'article 6, du respect des convictions religieuses. Genève n'est pas une île. La question de la place de la religion est à l'ordre du jour dans tous les pays européens et dans la très grande majorité des cantons suisses, quelle que soit d'ailleurs leur tradition confessionnelle, et à peu près pour les mêmes raisons. Il règne aussi cependant partout, et j'en ai encore tiré l'impression à un colloque, à un séminaire la semaine passée, à Zurich, il règne dans ce domaine une grande incertitude conceptuelle et une grande pluralité des références. De quoi parlons-nous? Que faut-il entendre par religion? Le groupe lui-même a dû d'abord se forger un minimum de vocabulaire commun. Au sujet de l'école, il a fallu aussi clarifier cette distinction qui restera fondamentale entre un enseignement de culture judéo-chrétienne ou religieuse, d'une part, et un enseignement de croyance religieuse. L'un est un enseignement sur et l'autre un enseignement de religion. Ce dernier appartient aux familles et aux églises exclusivement, laïque ne peut s'engager que dans un enseignement sur la religion ou les religions. J'y reviens. Pour définir le religieux, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Nous avons essayé la méthode déductive à partir d'un certain nombre de concepts empruntés aux sciences sociales ou à la théologie. Mais nous nous sommes aussi intéressés à une approche beaucoup plus inductive qui consiste à se demander qu'est-ce que les gens considèrent comme religieux ? Qu'est-ce qu'ils vivent dans ce domaine ? Pour constater que les sensibilités religieuses ont énormément changé par rapport au début du XXe siècle et notamment depuis les années 70. L'école publique s'adresse à tous. Même s'il n'est question que de culture religieuse, il importe de ne pas se tromper d'époque, mais d'être au contraire attentif aux longueurs d'onde sur lesquelles les parents, les élèves et les enseignants peuvent être branchés s'agissant de connaissances et de convictions religieuses à respecter. La part des élèves, par exemple, qui sont annoncés à l'école primaire genevoise comme sans religion est passée de l'ordre de 5% à l'ordre de 20% entre 1977 et 1995. Il s'exprime là, sans doute, au minimum, un refus des étiquettes confessionnelles et ou des institutions religieuses traditionnelles. Un mouvement de désaffection qui est d'ailleurs rapide. Plus rapide dans les milieux protestants et dans les classes moyennes supérieures que chez les catholiques et dans les classes laborieuses. Les immigrés italiens, espagnols et plus tard portugais notamment se définissent plus longtemps par leurs appartenances catholiques, sans doute aussi comme facteur identitaire, et nous pouvons penser qu'il n'en est pas autrement pour les nouveaux immigrés. Mais il ne faut pas tirer hâtivement la conclusion que les familles qui déclarent leurs enfants sans religion à l'école seraient réellement arreligieux ou athées. Les données de l'enquête, des enquêtes internationales, comme le World Survey, confirment bien la désaffection institutionnelle dans toutes les sociétés industrialisées. Elles attestent aussi, en même temps, de la permanence de la question du sens, de celle de la transcendance et de la mort. Participation au culte diminue dans toutes les démocraties industrialisées dites développées, et même assez rapidement, ainsi que la part des personnes pour qui Dieu est important. Mais en même temps, la part des personnes qui disent souvent réfléchir au sens de la vie a augmenté au cours des années 90 dans 17 des 20 démocraties industrialisées. Et elle est restée stable dans 3 autres, dont la Suisse. Cette proportion se situe, de gens qui cherchent le sens, se situe aux alentours de 44%, relativement élevé comparativement à d'autres pays. Les humains ont toujours cherché des réponses à des questions telles que « d'où venons-nous ? Où allons-nous ? Qui gouverne la nature, les hommes ?» Les religions et les institutions naissent dans ce questionnement probablement consubstantiel de la condition humaine. Si aujourd'hui, les églises ne trouvent pas la bonne longueur d'onde. De nouvelles théologies remplissent les niches laissées vides. C'est ce que montre une enquête plus fine du sociologue lausannois Roland Campiche sur les résidents, sur les croyances et les réponses auxquelles les Suisses adhèrent dans ce domaine au début des années 90. Ces résultats sont éclairants. D'un côté, il se trouve seulement 7% de concitoyens qui, en matière de transcendance et de vie après la mort, adhère exclusivement au dogme de la doctrine chrétienne. De l'autre, on trouve seulement 4% de véritables athées qui renoncent à toute transcendance et toute vie après la mort. 9 résidents sur 10 se trouvent donc entre ces deux figures du fidèle chrétien et de l'athée, empruntant leur vision de la transcendance et leurs options sur l'au-delà de la mort au christianisme, mais aussi à d'autres univers religieux, et les combinant très souvent avec une exigence de solidarité et d'égalité entre les humains, historiquement d'esprit chrétien, mais aussi humaniste. La plupart des contemporains bricolent leurs croyances, selon l'expression de Campiche, en recourant aux multiples matériaux aujourd'hui disponibles sur un marché des croyances peu structuré, peu contrôlé et de plus en plus ouvert sur le monde. Les mouvances sectaires évoquées tout à l'heure trouvent ici leur terreau. Utiliser un moteur de recherche sur le web et interroger sur le mot « belief », vous aurez 5 millions de références en 0,9 secondes. Dans la pluralité des bricolages individuels, quelques tendances fortes ressortent des études disponibles, entre autres l'individualisation et la privatisation, le refus de l'hérédité sociale ou familiale des croyances et des adhésions religieuses, mais aussi de l'embrigadement institutionnel. Le refus du lien traditionnel entre croyances et institutions religieuses d'une part et normes morales pratiques d'autre part. On ne veut pas que les églises prescrivent la morale pratique. On admet que le pape soit pour la paix. On admet difficilement qu'il interdise la contraception et l'avortement. Merci. Le refus de la tradition culpabilisante du christianisme fait aussi partie de ces tendances. La tendance vers une religion de confort, comme disent les auteurs québécois. Ce qui importe, c'est moins la fréquentation de manifestations ou de lieux sacrés qu'une forme de recherche personnelle. La prière n'est pas rare chez les jeunes, mais elle consiste moins en une demande traditionnel de quelque chose de précis à un Dieu personnalisé, qu'en un dialogue intérieur avec un autre imaginaire, constitué un interlocuteur compréhensif et bienveillant. La prière participe ainsi, plus ou moins consciemment, de l'hygiène psychique. La religiosité de la majorité des gens ne ressemble donc pas à celle qu'elle a pu être il y a 50 ans. Et la diversité des options et des orientations religieuses contemporaines dépasse de loin la nomenclature des adhésions nominales à des confessions religieuses établies. Nous n'avons pas de raison de penser que le tableau genevois serait radicalement différent de ce que nous montrent les travaux internationaux et suisses. Et nous pouvons admettre aussi que la même diversité se retrouve parmi les parents et les élèves, et d'ailleurs les enseignants. S'agissant plus particulièrement de l'école, mes propres enquêtes en Suisse entrent en résonance avec ces observations. L'instruction religieuse ne figure pas en tête des 15 branches scolaires sur lesquelles on a interrogé les Suisses concernant leurs attentes. Un Suisse sur trois seulement la considère indispensable ou très importante contre, par exemple, 2 sur 3 pour la gymnastique et l'instruction civique, et 9 sur 10 pour la langue maternelle, la mathématique ou l'informatique. Mais les attentes ont augmenté entre 1993 et 2001, et curieusement, avant tout chez les répondants non pratiquants, religieusement non pratiquants. Il se peut qu'il y ait là déjà un écho du débat renouvelé sur ces questions et de la réforme de l'enseignement religieux dans de nombreux cantons, dans une optique davantage multireligieuse et éthique. Lorsqu'on les invite en effet sur un mode plus critique, un tiers des Suisses seulement considère que l'école ne contribue pas assez à fortifier les convictions religieuses des jeunes, mais deux tiers estiment qu'elle ne les incite pas assez à respecter les autres et ne les aide pas à donner un sens à leur vie. Voilà pour ce qui est de la société, des sensibilités. Cela permet de saisir les grands courants qui traversent le champ social et le champ scolaire. Mais cela dit peu de choses sur les rapports de force politique, car dans le champ politique, ce sont bien plutôt des structures intermédiaires qui s'expriment et s'affrontent, et qui d'ailleurs, à leur tour, forgent l'opinion publique. Le groupe exploratoire, vous le savez, a voulu en savoir davantage sur ce niveau et il a interrogé un certain nombre de groupements et d'associations, les institutions et communautés religieuses les plus importantes du point de vue de la tradition ou du nombre, des associations d'enseignants, de cadres scolaires et de parents, et des groupements de libres penseurs. Vous trouverez leurs réponses dans le rapport. Elles sont inégalement fournies. Manifestement, les églises de la tradition genevoise, qui avaient déjà travaillé sur la question, étaient mieux préparées pour répondre à nos questions que les communautés religieuses moins que les autres communautés religieuses et que les associations d'enseignants, de cadres et de parents surtout. L'incertitude conceptuelle et la polysémie sautent aux yeux aussi dans ce concept. Lorsque les églises établies parlent de religion, elles soulignent, outre leur message proprement religieux, leur rôle historique dans le procès de la civilisation européenne, leur engagement contemporain dans le débat sur la crise des valeurs, parfois leur présence humanitaire et caritative dans la société. Les voix des organisations d'enseignants et de parents sont moins anticléricales que celles des cercles de libres penseurs. Mais les deux en appellent à la laïcité au nom de la paix sociale et scolaire. On se méfie de ce côté des églises et des institutions religieuses et on témoigne d'une grande réticence à rouvrir le débat sur la religion à l'école. Les références sont peut-être un peu datées, mais l'évocation de la religion provoque ici, souvent, des associations avec superstition, obscurantisme, inquisition, prosélytisme, manipulation mentale, horreur des guerres de religion, etc. Il faut dire que les intérêts entre les deux bords, entre les organisations des deux bords, divergent. Une forme de réhabilitation, entre guillemets, du religieux à l'école, même si elle n'est que culturelle, les organisations religieuses peuvent espérer une certaine reconnaissance sociale, une stimulation interne et un effet de rassemblement. Au contraire, les associations d'enseignants et de parents, qui fonctionnent selon le système de milice en plus, doivent craindre de fortes dissensions internes et une dispersion des forces à un moment où la réforme permanente de l'école, sur fond de crise budgétaire, leur cause de nombreux autres problèmes plus urgents à leurs yeux. Il est significatif, en revanche, qu'aucun des groupements ne se réfère aux données des sciences de la religion et à leur description et analyse de l'évolution de la religiosité. La connaissance est datée. Bref, le religieux est aujourd'hui tout à la fois omniprésent, ne serait-ce que par le calendrier chrétien, et tabou dans le débat public, sans doute sous l'effet de la privatisation. Mais lorsqu'on l'aborde, on constate qu'avec des catégories qui datent, le thème conserve un haut degré de conflictualité. Le président vient de le rappeler, autour de la création d'un évêché, de la projet de création d'un évêché à Genève, la levée de boucliers, autour de l'OTS, autour du foulard, autour de la création du groupe d'exploratoire lui-même, et peut-être autour de cette assemblée elle-même historique. Un accord est peut-être possible, cependant, sur des lignes plutôt défensives et sur fond de crise des valeurs humanistes. Il faut noter sous ce rapport que même les églises ne demandent pas un retour à l'instruction religieuse classique ou au catéchisme. L'accord pourrait se faire contre l'analphabétisme religieux, contre l'intolérance devant la multireligiosité, contre l'emprise des mouvances sectaires. Il y a aussi un facteur unificateur intéressant. Tout le monde pense que le savoir, la diffusion du savoir par l'école est une solution. Ce n'est pas sûr, mais c'est une hypothèse forte. Partagée. Que faire? De nombreuses questions restent ouvertes que le groupe exploratoire n'a pu qu'effleurer. Considère d'ailleurs son travail au mieux comme un premier déblayage d'un terrain difficile et un premier état des lieux. Le groupe a recommandé positivement au DIP d'entrer en matière sur la question de principe, en distinguant clairement entre culture religieuse et croyances religieuses. Il est difficile de ne pas reconnaître dans l'héritage judéo-chrétien une composante essentielle de notre civilisation, comprise ici comme catégorie élargie de la culture. La connaissance de ce patrimoine comme fait de mentalité et de société, comme dit Régis Debray, ainsi que sa relecture critique forment une composante indispensable d'une culture générale favorisant un ancrage identitaire. La relecture critique de cette tradition peut reposer sur une analyse historique et éthique interne, mais elle profitera aussi de la comparaison avec d'autres conceptions du monde et d'autres traditions religieuses. un enseignement orienté vers la culture, notamment dans une école laïque et dans un contexte multireligieux, ne peut pas se réduire aux confessions judéo-chrétiennes, d'où le changement de nom, la religion à l'école laïque, la culture religieuse à l'école laïque. Il ne s'agit pas donc d'histoire de la religion, mais au moins d'histoire des religions. Mais il faut ouvrir la perspective, c'est le projet ou l'avis du groupe exploratoire. Comme l'ont fait remarquer des représentants de la libre pensée, l'histoire des civilisations ne se réduit pas aux religieux. S'agissant de la civilisation européenne en particulier, la composante hellénique, hellénique et d'ailleurs arabe ne peuvent être ignorées. Plus que cela, l'évolution originale de notre civilisation vers la modernité, notamment l'histoire de l'individualisation, l'histoire du refus de l'argument d'autorité, l'histoire du principe de libre examen et libre débat qui sont au fondement de la science moderne et de la démocratie, doivent être impérativement prises en compte en même temps, de même que l'histoire de la séparation du politique, séparation difficile, fragile, du politique et du religieux, et celle de la laïcité elle-même. C'est sous ces auspices, d'ailleurs, que l'on peut aussi exiger une redéfinition et un approfondissement de la laïcité dans le sens de Ricoeur qu'on vient de rappeler. Il est possible, semble-t-il, dans le contexte actuel, de passer d'une tradition abstentionniste et défensive contre la religion à une laïcité ouverte sur le monde réel qui accepte aussi de traiter la religion et la religiosité à l'école comme des faits historiques, culturels et sociaux parmi d'autres. Après tout, c'est la laïcité aussi qui a institué la science des religions et qui a créé, entre autres, à Genève, une des plus anciennes chaires d'histoire des religions de Suisse et d'Europe. Impossible pour le groupe d'aller plus loin que cette orientation générale. Elle suppose une considérable ouverture de la perspective vers la notion de civilisation. Mais elle prend en compte aussi la très rapide transformation du paysage géopolitique. Plus que jamais, les jeunes d'aujourd'hui devront demain savoir se positionner entre la construction d'une Europe qui cherche à définir les principes de son unité, sa civilisation, et d'autres civilisations de grande tradition aux prises avec la modernité. L'ouverture proposée suppose en quelque sorte de briser le carcan local qui nous enferme dans une opposition entre religion et laïcité qui a vieilli. Une meilleure connaissance et une relecture critique de l'histoire de la civilisation européenne doit permettre aux jeunes de la reconnaître comme berceau des croyances religieuses, autant que de la laïcité, et comme point d'ancrage identitaire ouvert à d'autres. Nul besoin pour cela de changer les textes juridiques. La Constitution comme la loi sont compatibles avec cette réorientation générale dans l'esprit et dans la lettre. L'école genevoise aurait ainsi une chance de sortir des stratégies défensives et de se donner un projet de formation digne d'une Genève ouverte sur le monde et où l'esprit européen a de profondes racines. Mais avant de poursuivre dans cette direction, il faut en débattre, clarifier les concepts et les positions et, le cas échéant, en décider comme d'une option forte qui orientera la suite des travaux. Je vous remercie de votre attention.